Soignu. Ce soir encore, Emmanuel Laurentin rencontre Jacques Revel. Tout de suite, mondialisation et jeu d'échelle.
Jacques Revel, bonsoir.
Bonsoir.
Nous nous retrouvons ce soir pour le dernier volet de notre série d'entretiens avec vous. Nous avons évoqué votre formation d'historien quand l'histoire défendue par Fernand Braudel était une discipline centrale des sciences de l'homme, puis le délitement de ce modèle. Mais nous avons parlé aussi hier de politique de la recherche dans un contexte de mondialisation et de normalisation. Cette mondialisation touche également la discipline qui est la vôtre, l'histoire, avec l'émergence de ce qu'on appelle l'histoire mondiale ou l'histoire connectée, une histoire qui ouvre l'horizon de la recherche, mais qui pourrait aussi, c'est peut-être paradoxal, provincialiser l'Europe selon le diagnostic du chercheur américano-indien Dipesh Chakrabarty. Vous avez donc vécu cet élargissement des thèmes. Vous avez vous-même cherché et travaillé avec des chercheurs dans différents pays, l'Italie, évidemment, on en parlera dans un instant, mais aussi les États-Unis, plus récemment l'Amérique latine. Qu'est-ce que cette mondialisation de l'histoire, telle qu'elle est en cours, vous inspire, Jacques Revel ?
Je crois qu'il faut partir d'un premier constat. C'est que dans les 30 ou 40 dernières années, le monde des historiens, mais le monde des sciences sociales en général, s'est spectaculairement décloisonné. Les livres ont circulé davantage, les idées ont circulé, et nous avons circulé trop peut-être, mais en tout cas
physiquement,
à un niveau physiquement. Nous avons enseigné au dehors, nous avons reçu des collègues étrangers. Depuis les années 90, Internet a rendu les échanges faciles et même parfois encombrants. Bref, beaucoup de choses se sont mises en circulation, alors que lorsque j'étais étudiant, on pouvait en gros considérer que ce qui se faisait autour de nous suffisait à notre information et à notre réflexion. Ben, tout ça a été remis en cause sans heurts, mais de façon spectaculaire. 20 ans plus tard, les historiographies étrangères nous étaient familières et posaient donc des questions que nous ne nous posions pas, et réciproquement. Et une sorte de familiarité avec ce qui se passait au dehors, qui, bien entendu, a des limites, qui sont des limites linguistiques en particulier, mais quand même, en gros, l'historiographie est devenue un projet largement cosmopolite. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe plus d'identité historiographique nationale, mais qu'elle ne vit plus en vase clos.
Oui, d'autant que l'historiographie est devenue une discipline, et vous avez participé à la populariser, c'est-à-dire l'intérêt pour la façon dont on écrit l'histoire. Vous faites partie de ceux, Jacques Revel, qui vous êtes intéressé à cette question-là, alors que personne ne se posait même la question auparavant, ou peu de gens se posaient cette question-là auparavant.
En France, et c'est une particularité française, en Allemagne, en Italie, et l'Italie a été très marquée par la tradition historiciste allemande depuis le 19e siècle, cette approche, cette réflexion historiographique a été très tôt développée. Vraiment le plus important des historiens historiographes du XXe siècle, Arnaldo Momigliano, en est un exemple particulièrement accompli, impressionnant. En France, ce genre de choses existait très peu, et autant le débat méthodologique était important et parfois très vif, autant la prise en compte d'une dimension proprement épistémologique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand on se livre à cette activité très particulière qui est de connaître des choses qui n'existent plus, qui n'existeront plus et que nous ne connaissons que par des traces, ce qui est le propre de l'histoire. Ces questions apparaissaient vaines ou oiseuses ou une perte de temps à laquelle il n'y avait pas de raison de céder. Certains des grands historiens de la seconde moitié du XXe siècle ont eu des paroles terribles contre toute tentative d'épistémologie historique. Alors pourquoi est-ce que un certain nombre d'entre nous, dans ma génération et les générations qui ont suivi se sont intéressés à ces problèmes, probablement parce que nous étions sortis de l'âge des certitudes et que l'évidence de ce que nous faisions quand nous faisions l'histoire nous était un peu moins évidente qu'elle ne l'avait été 20 ou 30 ans plus tôt.
Et puis parce que vous vous étiez confronté, par exemple en allant travailler en Italie à l'École française de Rome, avec d'autres façons de faire de l'histoire. Vous y avez croisé, dans ces années 70 en particulier, ceux qui allaient créer ce qu'on a appelé la micro-histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi vous avez été intéressé par les expériences qui étaient menées, entre autres, par Giovanni Levi ou par Carlo Ginzburg, et en quoi elles vous ont permis de réfléchir à votre discipline de façon différente, Jacques Revel?
Oui, alors, c'est une expérience personnelle, mais qui peut-être en dire un peu plus sur des problèmes plus généraux. Je suis parti pour l'Italie pour entreprendre un travail d'histoire économique et sociale, comme on disait, de type quantitatif qui m'intéressait et que j'ai mené pendant plusieurs années. Et puis je me lis un peu au hasard des lectures, des rencontres avec des chercheurs qui sont devenus des amis, ceux que vous avez cités, Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Carlo Poni, d'autres un peu plus jeunes, qui connaissaient très bien ce qui se faisait en France, qui le suivaient de près, mais qui cherchaient une autre voie. En Italie, il n'y avait pas de recherche collective. Il y avait très peu de sciences sociales, il n'y avait pas de tradition quantitativiste, mais il y avait des archives d'une richesse inouïe. Et au fond, ce qui les intéressait, eux, c'était de développer des stratégies de recherche différentes, alternatives peut-être. Ce qu'ils ont trouvé, c'est ce qu'ils ont appelé la micro-histoire. Alors, la micro-histoire, c'est pas une discipline, ça ne répond pas à un cahier des charges unifié, ça n'est pas appuyé sur une théorie prescriptive. C'était la recherche d'autres manières de faire de l'histoire. Quelles autres manières ? L'idée que là où les approches quantitatives ou sérielles procédaient sur de larges échantillons, en abstrayant des sources un petit nombre d'indices dont on pouvait suivre l'évolution dans le temps, on pouvait à l'inverse limiter le secteur d'observation, mais l'étudier de manière intensive.
Un personnage,
un groupe de résidence, une profession, une communauté confrontée à telle expérience. Et sur cet échantillon limité, en faisant varier la focale, faire apparaître des formes d'organisation, des systèmes relationnels, des raisons d'agir qui échappaient à l'analyse quantitative.
Vous avez été un des passeurs de cette façon de faire de l'histoire, d'une certaine façon en France, Jacques Revel, vous avez beaucoup œuvré pour faire connaître ces travaux en France. Quelle a été la réception, justement, dans une France historienne qui était déjà troublée par des changements internes à la discipline? Quelle a été la réception de ce type de travail?
Au départ, la réception a été hésitante. Alors, moi, j'étais de formation quantitativiste, labroussienne, et au fond, comme plusieurs fois dans ma vie, j'ai pensé contre moi-même en m'intéressant à ces choses. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer non pas que l'une ou l'autre manière de faire était la bonne, ce qui n'a pas grand intérêt, mais que chacune de ces approches nous proposait de réfléchir sur des objets différents. C'est-à-dire qu'il y avait, liés à des échelles d'observation, des phénomènes de discontinuité à l'intérieur du monde social. Je prends un exemple simple. Lorsque nous parlons de l'État, nous pouvons en mesurer l'importance, l'enveloppe, la croissance à travers les siècles, en mesurant le poids de l'impôt ou le nombre des fonctionnaires, ou en analysant les institutions que l'État se donne pour encadrer le monde social. Ça, c'est l'État tel qu'il se pense lui-même et tel que, très souvent, les historiens et les sociologues l'ont pensé. Mais si on se place au bout des terminaisons nerveuses de l'État, on a un tout autre spectacle au niveau d'une circonscription limitée, d'un village, c'est ce qu'avait montré Giovanni Levi et certains de ses élèves, à l'extrémité d'un réseau institutionnel. On n'a pas du tout affaire à ce modèle majestueux, mais à des négociations. L'État doit souvent payer un prix pour pouvoir exister. Il doit transiger avec les formes sociales qu'il prétend contrôler. Les deux versions sont vraies. Et non seulement les deux versions, celles qu'on peut appeler macro, la première, et la seconde, qu'on appellera micro, sont vraies, mais toute une série de niveaux intermédiaires où l'État est reconfiguré dans ses projets, dans ses acteurs et dans les moyens dont il dispose pour exister.
C'est ce que vous appelez les jeux d'échelle ?
C'est ce que j'appelle les jeux d'échelle.
Et donc, c'est une façon de montrer aussi la fluidité des relations sociales de façon différente d'une sorte d'institutionnalisation qui serait totalement figée d'un côté et de l'autre aussi, et de montrer qu'effectivement, il y a des passages, des passeurs, des négociations surtout en permanence, Jacques Revel.
Oui, mais pas d'homologie entre les niveaux. C'est ce qu'a, par exemple, très bien montré un anthropologue, Marc Abeles, qui a étudié le personnel politique dans un département provincial, Lyon. Le livre s'appelait « Jour tranquille » en 89, montrant que dans la production du personnel politique, dans son organisation, il y avait des discontinuités complètes entre le niveau local, le niveau départemental et le niveau national. Ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes réseaux, ce ne sont pas les mêmes logiques, et c'est ainsi. Mais toute la vie sociale est faite ainsi.
De reconfiguration en particulier.
Oui, et de, on passe par des étapes, et à vrai dire, chacun d'entre nous, et les acteurs du passé étaient comme nous le sommes, vivent dans plusieurs mondes à la fois.
Alors, vous avez appris beaucoup à croiser et à discuter avec vos amis de la micro-histoire italienne, mais vous avez appris aussi, Jacques Revel, à aller enseigner régulièrement aux États-Unis. Là, vous y avez appris autre chose et une autre façon aussi de faire de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est comment vous avez fini par agencer tout cela entre votre formation quantitativiste, votre intérêt pour la micro-histoire et puis ce que vous apprenez de ce mode de travail et de cette échelle aussi de travail des historiens américains en particulier.
Oui, alors ce que j'ai appris aux États-Unis, d'abord, c'est les dimensions de la recherche, un monde des historiens immense, en tout cas beaucoup plus nombreux que ce que je pouvais connaître par mes expériences européennes. Il y a des milliers d'universités aux États-Unis, il y a des dizaines de milliers d'historiens ou de gens qui, à un titre ou à un autre, relèvent de la discipline ou se revendiquent de la discipline. La recherche n'y est pas organisée du tout sur le modèle européen, en tout cas pas sur le modèle français, c'est-à-dire peu d'enquêtes collectives, mais une vie sociale de la profession qui est en revanche très forte à travers un système associatif très puissant, des occasions de rencontres innombrables. C'est un milieu très vivant où les choses circulent très vite.
Et puis un goût de l'innovation aussi.
Enfin, un goût de l'innovation qui, par moments, peut inquiéter parce que les modes existent comme partout, mais elles durent peu. Et que le passage des projets, le passage des méthodologies est rapide. Les tournants, ce qu'on appelle les turns aux États-Unis, s'y multiplient à un rythme effréné, et surtout dans les 30 dernières années, où il a été une des manières de traduire l'instabilité relative de la discipline. Alors tout ça existe avec une grande générosité. J'ai passé beaucoup de temps dans les départements d'histoire d'un certain nombre de grandes universités américaines, et j'y ai trouvé beaucoup de vie. Ça ne veut pas dire que on pouvait se rallier à tout ou trouver tout convaincant, mais je dirais d'une année sur l'autre, les propositions se multipliaient avec des durées de vie inégales. Alors, pour moi, ces années ont été par ailleurs importantes parce que elles ont été le moment le plus important de ces tournants, ce qu'on a appelé le tournant linguistique, le linguistic turn entre la fin des années 1970 et la fin des années 90. Alors, qu'est-ce que c'est le linguistic turn? C'est l'attention qui a été prêtée au langage qu'utilisent les historiens et au biais qu'il introduit dans leurs énoncés, dans leurs propositions, dans leurs analyses. Ça relève du travail classique que n'importe quel chercheur est tenu de faire, mais aussi au langage des sources que nous utilisons, puisque l'histoire est un type de connaissance indirecte qui repose sur des traces qui sont souvent écrites, même si elles ne le sont pas exclusivement. À partir de quoi ces soucis entièrement légitimes ont donné lieu à des formulations qui allaient du plus raisonnable au plus radical. Comme ça arrive souvent, un certain nombre de collègues, historiens, mais aussi anthropologues, sociologues, littéraires, se sont convaincus que le monde entier était un texte. Et que le rapport de ce texte à la réalité était problématique, ce qu'il est sûrement, mais éventuellement qu'il pouvait être suspendu. Et qu'au fond, les textes renvoyaient à d'autres textes et ainsi de suite. Alors, les référents théoriques de ce choix, ils sont assez faciles à identifier. C'était d'un côté une certaine lecture de Saussure et l'arbitraire du signe que Saussure proposait, donc une rupture entre le mot et la chose, entre le signifiant et le signifié. Et puis c'était des références philosophiques un peu disparates qui allaient de Foucault à Derrida et à Richard Rorty, et qui, au fond, mettait en doute de manière, encore une fois, différente, le rapport entre les mots et les choses. Il en est résulté une sorte de mise en cause du réel, ou de la réalité, au nom de l'indécidabilité du rapport entre les mots et les choses. Alors, c'est une proposition qui, dans ses formulations les plus extrêmes, et elles n'ont pas été rares, posait de vrais problèmes, des problèmes de connaissance, des problèmes épistémologiques, et aussi des problèmes éthico-politiques. Ça a été un débat très vif aux États-Unis, il se trouve que ça correspond à une période où j'allais tous les ans ou tous les deux ans y enseigner. Ça secouait beaucoup, si j'ose dire, parce que ça posait des problèmes fondamentaux. Ça mettait en cause, au fond, la possibilité d'une connaissance historique au sens le plus plat du terme.
Alors, une fois le linguistic turn terminé, c'est ce que vous nous dites, à la fin des années 90, d'autres façons de voir la discipline sont nées, et en particulier, ce que je citais en ouverture de cette émission, ce terme de provincialiser l'Europe, lié aux subaltern studies, monté donc en particulier par des chercheurs venant du sous-continent indien, travaillant soit en Grande-Bretagne, soit aux États-Unis, qui avaient le propos de provincialiser l'Europe et d'une certaine façon de changer l'échelle, la façon dont on concevait l'histoire du monde telle qu'elle avait été conçue généralement depuis cette sphère, cette péninsule extrême occidentale de l'Eurasie et également depuis les États-Unis. Ça, c'est aussi la vision d'une histoire connectée, mondiale, globale qui est à l'œuvre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Qu'est-ce que vous en pensez justement de ce renouvellement, Jacques Revel?
Alors, ce renouvellement, il est multiface. Il y a d'une part le rappel utile, nécessaire, qu'il y a d'autres histoires que l'histoire européenne et que, vu d'ailleurs, l'histoire ne se voit pas et ne se comprend pas de la même manière. C'est une expérience qui a été tentée. Si on regarde la Méditerranée depuis la rive sud, on ne voit pas la même chose que si on la regarde depuis la rive nord. Ça a été tenté par des gens comme Gérard Chalian, avec les atlas des conflits. Bref, le point de vue crée, c'est assez banal, mais c'est très important, des objets différents. Alors, cela, les années 80 ne l'ont pas inventé, d'autres s'en étaient aperçus et on avait tiré des conclusions, mais les années 80-90 ont donné à cette revendication une insistance et aussi une charge politique extrêmement forte, tenir compte d'autre chose que des références classiques à partir desquels on pensait l'histoire du monde. Une fois que ceci est accepté, et ça n'a guère été discuté, reste à savoir quelle histoire on écrit. Accepter la multiplicité des points de vue, c'est encourager les historiens à développer toute une gamme d'histoires dont il importe aussi de savoir ce que l'on fait ensuite, c'est-à-dire comment ces histoires sont ou non susceptibles de s'articuler les unes les autres.
Même si on ne veut plus un récit unifié comme on a pu le vouloir en écrivant des histoires du monde au 19e ou au 20e siècle.
Même si on ne veut plus un récit unifié, j'en prends un exemple. Il y a 5 ou 6 ans, Romain Bertrand a écrit un très beau livre qui s'appelle « L'histoire à parts égales ». Qu'est-ce que raconte ce livre? Que lorsque les Hollandais sont arrivés dans le monde insulindien à la fin du XVIe siècle, ils ont eu le sentiment d'un moment très important qui leur a ouvert pour plusieurs siècles un immense espace colonial. Et donc, la première arrivée des Hollandais, dont j'ai oublié la date exacte,
1598.
Et ça doit être 1596, oui, c'est ça, dans le sultanat d'Aceh, et pour l'histoire hollandaise, et pour l'histoire occidentale, une date très importante. Dans les textes malais de l'époque, Bertrand est capable de lire, cet événement n'a aucune importance. Il est à peine enregistré, en tout cas, la date n'est pas considérée comme une date tournante. Alors, cette asymétrie pose problème, et tout l'intérêt du livre de Roman Bertrand, c'est de nous montrer que si on veut comprendre ce moment historique, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Ce que les uns ont constitué en date tournante et les autres ignoré.
La rencontre,
reste à savoir,
la rencontre et la non-rencontre.
Et la non-rencontre. Reste à savoir ensuite ce qu'on fait de cet événement dans une histoire plus générale. Il ne s'agit pas de réduire la symétrie, puisque c'est elle qui est importante dans l'analyse proposée par Bertrand, mais quel récit plus général peut-on faire à partir d'un épisode de ce type-là? Et je prends cet exemple parce qu'il s'agit d'un livre particulièrement brillant qui pose le problème de manière frontale et convaincante. Mais nous assistons et nous allons assister de plus en plus à une multiplication d'histoires au pluriel dont il faudra quand même essayer de réfléchir comment, même si c'est de manière partielle, elles communiquent les unes avec les autres, même s'il ne s'agit pas, en tout cas pas avant longtemps, de fabriquer un récit unifié.
Et ça, ça vous amuse d'une certaine façon quand on vous voit en parler, Jacques Revel, parce que vous vous replacez dans ces différents moments de votre vie où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pensé contre vous-même. C'est-à-dire que, étant formé dans un type d'histoire, vous avez dû faire l'apprentissage d'un autre regard sur la discipline et sur le travail que vous pouviez mener. Et tout compte fait, ça nécessite de tout repenser et ça vous amuse de voir tout repenser.
Oui, c'est peut-être même une des seules choses que je sais faire. En tout cas, c'est une des choses que j'aime faire. Il va de soi que dans cette production d'histoires multiples, l'essentiel de ce que je l'apprends de seconde main, puisque je ne maîtrise pas les langues, je n'ai pas les compétences suffisantes, mais je peux lire, et nous pouvons tous lire, et il suffit de lire pour se poser des problèmes et se demander quelle est l'étape suivante. Alors, je dirais, j'ai dit que j'étais plutôt du côté des mécanos que du côté de ceux qui ont un rapport affectif vivant avec les morts. C'est au fond la situation que vous venez de décrire. L'émergence de ce qu'on appelle l'histoire globale, et c'est un mot dont personne n'est capable de définir le contenu pour le moment. C'est une projection, ou c'est un horizon d'attente, nous oblige à penser contre nous-mêmes, et c'est très bien ainsi.
Merci Jacques Revel.
Merci à vous.
Cette rencontre d'Emmanuel Laurentin avec Jacques Revel. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Raymond Albouy, réalisation Véronique Lamandour, coordination Belline Dola. Cette émission s'écoute en ligne et se télécharge sur franceculture.fr. Et dès lundi, une nouvelle rencontre.